La doctrine sociale de l'Église concerne tout le monde. Anne d'Espagne est mère de famille avec 9 enfants. Sa formation en mathématiques et en philosophie l'a amenée à découvrir ce pan de la vie de l'Église et l'a surtout motivée pour écrire un livre intitulé « Comprendre la doctrine sociale de l'Église ». Elle nous introduit ce soir dans ce vaste monde en nous présentant les principes, l'évolution et en définissant le sens de cette doctrine.
Alors, en quelques mots, on revient sur l'aspect doctrine. Il vient de rappeler l'origine du mot doctrine qui vient du latin doceo. Donc c'est un enseignement, mais un enseignement qui a une certaine valeur d'autorité. C'est un véritable enseignement qu'il faut creuser. Ensuite, c'est une doctrine sociale. Donc elle concerne en fait l'homme dans la mesure où il vit en société. C'est l'homme inséré dans un réseau de relations. Et cet enseignement social considère l'homme qui doit se sanctifier par la gestion des choses temporelles. Et enfin, pourquoi l'Église se permet de parler en matière sociale? Eh bien, l'Église est experte en humanité, comme l'a dit Paul VI, et connaissant l'homme, sa nature, sa finalité, elle a le devoir d'éclairer l'homme sur la façon dont il doit gérer les sociétés, comment ils doivent vivre ensemble, de façon à respecter cette dignité, cette finalité.
Alors, quand on parle de doctrine sociale, on pense souvent au mot social pris dans le sens économique ou sociétal. De quelle manière l'Église comprend-elle ce terme ?
L'Église le comprend dans la mesure où l'homme est un être social. Dès le commencement, dès la Genèse, l'homme a été créé homme et femme. Donc dans sa nature d'être créé, l'homme est fait pour vivre en société. Et c'est ce réseau de relations et c'est ce phénomène de prise de responsabilité des hommes que l'Église veut éclairer quand elle parle de société. Donc c'est comment faire en sorte que les sociétés aident l'homme à mieux vivre. Une réforme doit être vraiment sociale si elle perfectionne la société, c'est-à-dire si elle permet de mieux remplir le rôle vis-à-vis des familles. Les familles étant les premières cellules de base de la société, on a tendance à l'oublier, on considère la société comme une somme d'individus. Eh bien, la société est constituée de familles et donc la société doit permettre de perfectionner chacun de ses membres en redonnant le sens des responsabilités et en favorisant la communication des biens entre les personnes.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont peut-être les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église ?
Je vais essayer de résumer des points importants qui sont des vérités sur l'homme et que l'Église énonce de façon à éclairer les relations sociales. Par exemple, le fait que l'homme soit une créature, alors c'est dans la Bible, hein. Cela implique qu'il est dépendant, qu'il est débiteur avant tout et qu'il a cette reconnaissance à avoir, bon déjà d'un point de vue naturel vis-à-vis de ses parents, de sa patrie, etc. Donc c'est un point de départ dans la doctrine sociale de l'Église parce qu'il engendre le respect de l'autorité, le fait de savoir recevoir un héritage pour pouvoir le retransmettre après. Le fait que l'homme soit à l'image de Dieu, c'est pareil, ça en va à la source, eh bien ça lui donne cette liberté qu'il faut préciser. Une liberté qui est liée donc à la finalité de l'homme, le fait que l'homme soit intelligent et responsable de ses actes. Cela éclaire par exemple ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Dieu nous a délégué une très grande partie de ses pouvoirs pour parfaire la création. Le fait que l'homme soit un être social, eh bien, cela engendre sa reconnaissance de différences qui enrichissent les hommes et non pas ce besoin d'égalitarisme qui tue la société en réalité. Donc, reconnaître que les hommes sont différents implique aussi ces besoins de communication, nécessite la charité entre les hommes. Et puis ensuite, il y a le fait que Dieu nous ait légué ses pouvoirs, donc nous sommes ministres de Dieu pour le gouvernement du monde, et bien cela amène à réfléchir sur l'autorité, le rôle de l'autorité, et ça on le voit à tous les échelons de la société, que ce soit la mère de famille, au directeur d'école, au professeur, au député, au chef d'État, et bien reconnaître quel est ce rôle de l'autorité, faire grandir les autres, mais que l'autorité vient de Dieu et qu'on n'est pas soi-même source de l'autorité, ça évite tout absolutisme, tout autoritarisme, etc.
À travers les points que vous avez nommés, on retrouve la loi naturelle. Peut-on dire qu'elle est à la base de cette doctrine sociale de l'Église ?
Ah oui, la loi naturelle est, je dirais, le fondement inéluctable. Quand on regarde les textes des papes, pas un seul n'a pas évoqué cette loi naturelle comme étant un élément indispensable. Jean-Paul II encore et Benoît XVI dans ses discours n'a cessé de rappeler aux hommes que la référence à la loi naturelle finalement est indispensable pour permettre le bonheur des sociétés.
Et y a-t-il eu au cours de l'histoire une évolution de la doctrine sociale de l'Église ?
Alors écoutez, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, il est vrai qu'on remonte à Léon XIII et à son encyclique en 1891, Rerum Novarum. Le terme doctrine sociale en tant que tel est plutôt apparu avec Pie XI, qui a évoqué les principes du catholicisme en matière sociale qui sont devenus justement le patrimoine commun de l'humanité. quand il a commémoré l'encyclique Rerum Novarum par celle qui s'appelle Quadragesimo Anno. Effectivement, même si les fondements de la doctrine sociale de l'Église sont dans la Bible, dans l'Évangile, dans les lettres de Saint-Pierre, Saint-Paul, des pères de l'Église, enfin, tout au long de la vie de l'Église, bien sûr, cet enseignement s'est précisé, mais c'est au XIXe siècle surtout, avec un grand changement dans les sociétés occidentales, changement par la révolution industrielle, avec une grande paupérisation, un mode de vie, de fonctionnement des sociétés totalement différent, qui a provoqué des déracinements, des grandes misères, et c'est à ce moment-là que le pape Léon XIII a fait cette première grande encyclique sociale, qui a été suivie après par d'autres encycliques, d'autres lettres, d'autres exhortations, qui n'ont fait que réactualiser, rendre grâce pour les choses qui ont pu évoluer, et puis mettre l'accent à nouveau sur les points qui restent ténébreux et qui ont besoin à chaque fois d'être redits par les papes successifs. Et ça est arrivé jusqu'au compendium de la doctrine sociale de l'Église que Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont donné.
Outre le magistère, pourrait-on dire que certains grands saints qui ont été impliqués dans des actions caritatives, je pense par exemple à saint Vincent de Paul ou à Frédéric Ozanam, ont été des précurseurs pour la doctrine sociale de l'Église en fonction de ce qu'ils ont mis en place pour vivre la charité?
Absolument. Je pense effectivement, en France, on a eu ce mouvement qui a précédé l'encyclique du pape. Et donc, observant la misère, les grands saints que vous avez évoqués, et puis aussi des catholiques, ce qu'on appelle les catholiques sociaux, même des députés, qui ont tout de suite alerté les gouvernements en disant « Attention, il faut le réformer, on est en train de créer une grande misère, tant spirituelle, morale et matérielle. » Donc, bien sûr, l'action des laïcs elle-même a été aussi certainement catalyseur pour la doctrine sociale de l'Église.
Est-ce qu'au cours de l'histoire, même récente, la doctrine sociale de l'Église a évolué?
Certainement, c'est-à-dire que l'Église en tant que mère, je dirais, met le doigt là où le bât blesse. C'est-à-dire quand elle voit un manque, une faille, quand il se trouve que, par exemple, le droit à la vie est menacé, Jean-Paul II a écrit Evangelium Vitae parce qu'il fallait absolument redire aux catholiques qu'on ne pouvait en aucun cas attenter à la vie d'un enfant à naître ou des personnes en fin de vie. Donc effectivement, les événements font que les papes reprécisent la doctrine, la redisent, c'est toujours la même finalement, mais qui est redite de façon plus ou moins forte selon les événements.